Merci de nous accueillir chez vous, bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme tous les soirs, on commence avec le journal et bonsoir Hélène Roussel.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mardi commence avec la moitié du pays en alerte orange.
Le gouvernement fait-il du zèle? Pas du tout, répond la ministre de la Santé. La canicule, c'est du sérieux, on n'est jamais trop prudent, vous l'entendrez au début de ce journal. Système D dans les écoles, sans clim, sans store, sans ombre. Système D pour les collégiens, brevets reportés, mais billets de train ou d'avion pas remboursés. Et système D sur la route, voiture critère 3 interdite demain à Paris. Nantes, beaucoup de questions toujours sur l'opération de police. Vendredi soir à la fête de la musique, disproportionnée, même les syndicats s'interrogent, vous l'entendrez. Total, mise en demeure, c'est une première. 6 ONG dénoncent un projet pétrolier en Ouganda. Enfin du breakdance sur la scène olympique, le comité vient de voter Paris 2024 ou le vent de la modernité.
Eh bien tout à l'heure à 18h15, un jour dans le monde, en Iran ce soir, Hélène, c'est reparti avec un Donald Trump qui à nouveau menace de représailles écrasantes, fermez les guillemets, pendant que le président Rouhani a estimé que la Maison Blanche avait un comportement d'attardé mental. Bref, tout va bien. Et on en parle ce soir avec le premier invité d'un jour dans le monde. Nous sommes également en Côte d'Ivoire pour entendre des pêcheurs dont les maisons ont été déplacées parfois trois fois pour cause d'érosion. Et puis 19h20, le téléphone sonne. On parle de gaspillage ce soir, de gaspillage. On fait des progrès en France pour arrêter de jeter les invendus alimentaires. On pense désormais aux associations. On sait inventer des épiceries d'un nouveau genre. On met la pression sur les grandes surfaces, mais il reste des progrès à faire. On a encore du mal à finir nos assiettes, en gros. N'en jetez plus, c'est le thème ce soir et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc, report du brevet, point du gouvernement à 17h tous les jours, message d'alerte, le gouvernement, Hélène, en fait-il trop sur la canicule?
C'est ce que dit l'opposition de droite. En tout cas, les ministres font du zèle, ils font peur aux Français, dénonce le patron des députés LR, Christian Jacob. Pas du tout, répond Agnès Buzyn, ministre de la Santé, pas d'alarmisme, seulement de la prudence et de la précaution.
Je n'estime pas que nous en fassions trop parce qu'il y a toujours des morts. L'année dernière, il y a eu un épisode de canicule qui a abouti à 1500 décès. Et on voit bien qu'en réalité, les décès ne sont plus tant dans la population la plus vulnérable des personnes âgées, mais plutôt dans la population générale, chez les travailleurs exposés au soleil, BTP et restauration notamment, chez des sportifs qui continuent à faire leur jogging à midi, et puis un excès de noyade parce qu'il y avait une insuffisance de surveillance des jeunes et des enfants, ou des hydrocutions aussi, des personnes qui se jettent à l'eau alors qu'elles ont été en plein soleil. Mais je souhaiterais évidemment qu'il n'y ait aucun décès supplémentaire cette année, et je m'y emploie par ces messages.
Agnès Buzyn, pendant ce temps-là, eh bien, les températures, comme c'était prévu, montent encore d'un cran aujourd'hui. 12 départements de plus en alerte canicule, 65 au total. Et à deux jours du pic de chaleur dans les écoles, c'est système D. Parce que quand le ministre de l'Éducation donne ses consignes, mettre un thermomètre dans les classes, régulièrement donner à boire aux enfants, faire en sorte globalement de garder les élèves au frais, eh bien, les enseignants et les directeurs rient plus que jaune. Exemple avec cette école primaire dans le quartier du Mirail à Toulouse, Stéphane Iglesis.
C'est une école genre cube de béton au pied des tours de la Rainerie. Le bâtiment années 70 accuse le poids des ans, mais à l'intérieur, les enseignants ont fait au mieux pour la rendre toute pimpante. Pour la chaleur, il va être difficile d'appliquer les consignes ministérielles. Carole Fava d'Albert, directrice de l'école primaire Françoise Héritier à Toulouse.
Donc il faut que nous gardions les enfants dans une ambiance fraîche. Nous avons aucun arbre dans la cour de récréation. Nous devons vérifier la fonctionnalité et l'installation de nos volets ou et stores. On n'a ni volets ni stores. Donc nous ne pouvons fermer que nos rideaux, qui bien sûr s'avèrent très insuffisants quand le soleil tape à 40 degrés sur les vitres.
Des thermomètres, il n'y en a donc pas dans toutes les classes. Louis Lépée du SNUIPP qui est en charge des CP.
Ça montre bien qu'il y a un décalage par rapport au terrain, c'est-à-dire qu'on nous demande des choses qui ne sont pas du tout installées dans notre école. Donc il y a un défaut, à mon avis, de communication entre l'éducation nationale et la mairie qui s'occupe des locaux. Et la mairie, malheureusement, ne satisfait pas des demandes élémentaires comme diminuer la température dans les classes, qu'on demande depuis assez longtemps. Et au-delà de 30 degrés dans une classe, ça devient très compliqué de travailler tout simplement.
La situation de cette école primaire n'est pas un cas unique en France, insistent les enseignants. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Pas assez chaud pour fermer les écoles, donc, mais trop pour bûcher pendant des heures. Le brevet des collèges reporté à lundi et mardi de la semaine prochaine, 700 000 élèves concernés, avec de la souplesse, a dit le ministre hier. S'il y a empêchement majeur, un billet de train ou d'avion par exemple, alors il sera possible de passer le brevet au mois de septembre. Soit, mais pour ceux qui choisissent le brevet, pourront-ils compter cela sur la solidarité des tour opérateurs et donc sur un remboursement? Eh bien Philippe Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
C'est là que ça coince.
Eh oui, pour les familles
qui avait envisagé de partir à la fin de la semaine, le report de l'examen n'est pas considéré comme un cas de force majeure, comme une maladie ou un accident. C'est juridiquement une annulation dont le client est seul responsable, donc pas de remboursement possible. Ne comptez pas non plus sur un éventuel report sans frais plus tard au mois de juillet ou au mois d'août. D'abord parce que les carnets de réservation sont bien pleins et ensuite parce que plus on avance dans la saison, plus les prix augmentent. Mais tout n'est pas perdu, vous pourrez peut-être obtenir le remboursement de la totalité ou d'une partie du prix de vos vacances si vous avez souscrit une assurance annulation ou si vous avez utilisé une carte de crédit haut de gamme, genre carte Gold, pour payer votre voyage. Enfin, dans les agences de voyage, on reconnaît qu'il pourrait y avoir des arrangements au cas par cas, arrangements beaucoup plus difficiles à obtenir sur les sites de e-commerce et sites de vente en ligne qui cet après-midi facturaient, tenez-vous bien, 450 euros pour changer une date de billet d'avion.
Philippe Lefebvre, merci beaucoup. Conséquence encore de la chaleur. La chape de plomb est aussi dans l'air. Pic de pollution à l'ozone demain à Paris et en banlieue. La circulation différenciée sera mise en place et pour la première fois, les véhicules équipés de vignettes critères 3 n'auront pas le droit de circuler demain. Pic de pollution, notez-le aussi dans le Vaucluse ou encore les Bouches-du-Rhône. Et qui en est responsable de cet air qu'on respire? Une mère et sa fille qui souffrent toutes les deux de problèmes respiratoires ont porté plainte. Le tribunal de Montreuil aujourd'hui leur donne raison. L'État est fautif, dit le tribunal, car les mesures anti-pollution entre 2012 et 2016 étaient largement insuffisantes dans la région. Décision symbolique, car le tribunal a rejeté en revanche leur demande d'indemnisation. Le lien de causalité n'est pas directement établi. On en reparlera plus en détail dans le journal de 19h. Enfin, rien à voir avec la canicule, même si ça vient du ciel. Violents orages dans le Calvados et dans l'Orne, avec une coulée de boue la nuit dernière à Lisieux. Une centaine d'habitations sinistrées, une dizaine de familles relogées. Le trafic des trains entre Paris et Caen perturbé. La ville de Caen décidément bien loin de la chaleur, il fait à peine 20 degrés aujourd'hui, à croire que nous ne sommes pas dans le même pays.
Que s'est-il passé à Nantes le soir de la fête de la musique?
14 personnes tombées dans la Loire après des affrontements avec la police, des lacrymos, des chiens, des grenades anti-encerclement. Les forces de l'ordre étaient venues disperser la fin de soirée, mais ça a dégénéré. Un jeune homme est d'ailleurs toujours porté disparu aujourd'hui. Selon ses proches, il ne savait pas nager. Opération disproportionnée, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a commandé une enquête de l'IGPN et à Nantes, même les syndicats de police ont des doutes.
C'est un événement qui se reproduit tous les ans. On n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. Ces personnes-là, effectivement, étaient très alcoolisées, on devait le savoir, hein, 4h30 du matin, avec des stupes. Voilà. Ceci dit, il n'y avait pas de casse. Il n'y a peut-être pas d'urgence, mais bon, je vous dis, toujours est-il que l'IGPN le déterminera. Nous, en tant que fonctionnaires de police, on se pose la question. Savoir si le chef de service, présent sur place, a pris la bonne décision avec ce qu'on voit, ce qui est devenu par derrière les conséquences dramatiques, tant chez nos collègues, et aussi la disparition d'un jeune qu'on espère qu'on retrouvera.
Stéphane Léonard, secrétaire départemental du syndicat Unité SGPFO, il répondait à Florian Cazola de France Bleu Loire-Océan. Facebook accepte de fournir à la justice française l'adresse IP des auteurs de propos haineux sur Internet, une décision visiblement tout spécifique à la France. Ariane Chemin du Monde, les auteurs du site Disclose ou encore notre journaliste Radio France Benoît Colomba, autant de journalistes convoqués à la DGSI récemment, une pratique de plus en plus courante. Alors, l'association de la presse judiciaire avec le syndicat national des journalistes a décidé de publier aujourd'hui un guide de défense du journaliste. Précision avec Alexandra Hakoun.
Des convocations à la mi-mai qui ont profondément agacé l'APJ, l'association de la presse judiciaire, d'autant qu'à chaque fois les enquêteurs ont clairement cherché à obtenir les sources des journalistes. Pierre-Antoine Souchard, vice-président de l'APJ.
Mais il n'y a pas que celle de la DGSI, il y a des convocations dont on entend moins parler, donc à deux procédures différentes. Donc oui, ça finit par devenir très agaçant. Je crois qu'il est primordial de rappeler que le secret des sources, c'est la seule arme du journaliste. C'est pas compliqué à comprendre, mais je crois que c'est très compliqué à entendre de la part de certains policiers et de certains magistrats. Mais c'est comme ça.
L'APJ a donc listé 10 situations dans lesquelles un journaliste est susceptible de se retrouver, car étonnamment...
Le journaliste est peut-être une personne informée sur beaucoup de sujets, mais sur ses droits, il patauge un peu.
Alors comment réagir s'il est convoqué comme témoin ou par exemple s'il est placé en garde à vue?
Clairement, il faut le dire, les enquêteurs jouent sur plusieurs leviers, pression sur le journaliste, sur éventuellement sa famille... En garde à vue, on peut être très fier à bras avant d'y aller, mais après, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, au moins, déjà connaître ses droits pour savoir ce que vous pouvez dire ou ce que vous ne pouvez pas dire.
Savoir aussi que sans l'intervention d'un juge, les forces de l'ordre ne peuvent contraindre un journaliste à donner les codes de son téléphone portable ou de son ordinateur. Des conseils pratiques à retrouver en version longue avec texte de référence et jurisprudence sur pressejudiciaire.fr et sur le site du SNJ.
Les baisses d'impôts ou encore la réindexation des petites retraites, enveloppe de 15 milliards d'euros débloquée pendant et après la crise des Gilets jaunes, et ça ne plaît pas beaucoup à la Cour des comptes. Plutôt conciliante avec le gouvernement Macron jusqu'ici, la voilà qui évoque une situation dégradée, des évolutions préoccupantes. Il y a, dit-elle dans son rapport annuel et sans demi-mesure, un danger sur la dette publique. À force de serrer la ceinture, l'hôpital étouffe. À bout de souffle, les infirmiers du CHU de Besançon étaient tous en arrêt maladie la nuit dernière pour épuisement. En bref, encore, on avance à petits pas sur le congé paternité en France, allongé de 30 jours pour les pères dont le bébé né prématuré est hospitalisé. 30 jours qui se rajoutent donc aux 11 prévus pour tous les papas. Le décret publié aujourd'hui en application au 1er juillet. Et puis, petite révolution dans grande école. Sciences Po annonce mettre fin à son concours d'entrée en première année. À la rentrée 2021, les candidats seront recrutés sur contrôle continu et motivation. Une façon d'introduire plus de diversité sur ces bancs.
Allez, le groupe français Total mis en demeure. 6 ONG dénoncent un projet pétrolier en Ouganda.
Un projet qui risque d'avoir de lourdes conséquences pour des dizaines de milliers de personnes et qui menace aussi un parc naturel dans la région des Grands Lacs. Pour les associations, Total ne respecte pas la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Total mise en demeure, c'est une première, Bertrand Galichet.
Une action fondée sur une loi de 2017 qui impose aux multinationales françaises d'identifier et de prévenir les atteintes aux droits humains, à la sécurité des personnes et à l'environnement, d'où cette mise en demeure adressée à Total par une demi-douzaine d'ONG ougandaises et françaises, Juliette Renaud, des Amis de la Terre.
Il y a déjà des milliers de personnes qui ont commencé à être expulsées pour faire la place à la zone industrielle, à l'usine de traitement que Total va construire en bordure de ce parc naturel. Et après, des dizaines de milliers d'autres vont être affectés tout au long du trajet d'un oléoduc géant, l'ICOP, qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie pour une longueur totale de plus de 1400 km.
Les associations jugent très maigres les indemnisations proposées par le groupe Total aux paysans qui vivent dans les régions concernées. Les Amis de la Terre disent aussi que les populations sont soumises à la pression de certains sous-traitants, voire des autorités locales, pour signer, au risque de perdre toute possibilité de revenus dans le futur. Les ONG dénoncent un accaparement des et attendent beaucoup de ce premier cas d'utilisation de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales.
Et Total a 3 mois pour répondre, sinon cette mise en demeure pourrait bien déboucher sur une saisie de la justice. Le dialogue, ce sont les Américains qui le rendent impossible. En substance, le message de l'Iran après les nouvelles sanctions économiques imposées par les États-Unis hier. La réaction de l'Iran est insultante, a répondu Donald Trump, qui met en garde à nouveau Téhéran contre des représailles, je cite, écrasantes en cas d'attaque iranienne. La Chine et l'Europe de leur côté tentent de temporiser et appellent au sang-froid et à la retenue. C'est comme un vent de modernité pour les JO de 2024 à Paris. Les membres du comité olympique votent en ce moment même. Plusieurs nouvelles disciplines vont faire leur entrée et à commencer par le breakdance. C'est voté, c'est acté, c'est danse de rue en forme de battle sur la scène olympique. Excellente nouvelle pour Mounir Biba, 9 fois champion du monde de breakdance.
On a travaillé dur pour ça. Il y a quelques mois encore, ça paraissait assez dérisoire. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis vraiment satisfait, très content et surtout pour tous les acteurs de terrain qui depuis de longues années travaillent extrêmement dur. C'est une belle récompense. Maintenant, il faudrait être à la hauteur de ce grand rendez-vous historique qui nous attend. Mais oui, je suis très très heureux. Ça va apporter, bien sûr, une structuration bien meilleure, des moyens matériels, financiers, pour que nos athlètes puissent se préparer au mieux. La marge de progression des athlètes breakdance est encore énorme. Ils ont évolué toutes ces années sans presque aucun moyen en termes matériels, financiers, en termes de structure. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils vont pouvoir bénéficier d'un véritable encadrement, digne des Jeux Olympiques, digne du très haut niveau, la marge de progression sera encore énorme et j'espère qu'on sera à la hauteur du rendez-vous.
Le breakdancer Mounir Biba avec Fabrice Rigobert. Une étoile spéciale pour le restaurant français Mirazur à Menton sur la Côte d'Azur, élu meilleur restaurant du monde, sélection des World's 50 Best qui donc tous les ans donne son classement, les 50 meilleurs restos du monde. Enfin, un témoignage. Il m'a déjà fait mal et menacé de nombreuses fois, celui de Pamela Anderson qui annonce sa rupture avec le footballeur français Adil Rami. Sur Instagram, elle l'accuse de violence et dit avoir embauché un garde du corps parce que son ex lui fait peur. Mmh. Voilà, quand on gratte le vernis, parfois c'est très moche.
Voilà, si ça se trouve, on serait riche et célèbre, on serait malheureuse. Hélène, voilà, allez, le journal, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous revenez dans Un jour dans le monde, Hélène.
Pour réduire le nombre de grossesses précoces, la Colombie a trouvé une astuce. Les collégiens doivent s'occuper tout un week-end d'un bébé robot. Et l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole, qui met déjà des bâtons dans les roues avant la COP25. Et puis une radio publique en Finlande qui propose toutes les semaines un journal en latin.
Allez, à tout à l'heure. Donc, on a hâte. Il sera autour de 18h37. Ce soir, nous sommes en Iran où l'échange de noms d'oiseaux se poursuit avec les États-Unis. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire avec des pêcheurs victimes de l'érosion. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, ne jetez plus, ne gaspillez plus de nourriture. En France, on progresse un peu. On sait mettre la pression sur les grandes surfaces. Pas forcément suffisamment d'ailleurs, mais 10 millions de repas sont toujours jetés tous les ans. Et vous le savez, puisque comme tout le monde, il vous arrive forcément de jeter des choses encore emballées. Lutter contre le gaspillage, les méthodes, les sanctions, la loi, les trucs et les astuces, ça se passe au 01 45 24 7000. Sinon, il fait chaud, non ?
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Elodie Calac, 65 départements donc en vigilance orange canicule.
Et oui, on a battu des records pour un mois de juin cet après-midi, 38,9 à Carpentras, 36,4 à Chamonix, des records de chaleur tout mois confondu en montagne, 31,4 pour le Tour en Haute-Savoie à 1500 mètres et 28,3 à Val d'Isère. Alors cette nuit, on aura souvent autour de 20 degrés, jusqu'à 22 à Paris, 25 à Nice. Demain après-midi, on respirera près de la Manche avec 21 à 28 degrés, 30 à 38 entre le nord-ouest et les frontières belges et luxembourgeoises, et puis 35 à 41 ailleurs.
Tout ça, évidemment, sous un grand soleil.
Très présent, en effet. Alors, des nuages bas tout de même sur le Pays Basque et le Nord-Pas-de-Calais le matin. Sur la Bretagne, le Cotentin, attention aux orages cette nuit. Il restera quelques averses orageuses demain matin, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Et puis la chaleur, elle s'accentuera encore jeudi et vendredi. Une amélioration est tout de même attendue par le nord-ouest ce week-end.
Merci beaucoup, Elodie Calac de Météo France. À tout à l'heure, Elodie, après 19h.